Chartreusement Sport. Chartreusement Sport. L'actualité du sport animée par Jules.
Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs de Radio Couleur Chartreuse. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour la deuxième émission de Chartreusement Sport. On est un petit peu en vacances, on est un petit peu distrait cette année, mais ça sera d'autant plus intense qu'on se retrouve aujourd'hui avec notre historique, notre incroyable Patrice Mollier. Salut Patrice.
Oui, bonjour, bonjour Jules, bonjour Mathieu.
Alors on va traiter évidemment, comme on se retrouve pas beaucoup cette année, on va essayer de parler beaucoup avec toi aussi sur les différents clubs sportifs chartreusains et un petit peu retracer leur saison, les dynamiques en cours, l'AS Rivière-Oise en football avec Miribel Les Échelles, l'UE Chartreuse Guier, mais également le rugby et le basket, le local. Ce sera avec toi. Et puis on parlera un petit peu plus national dans cette deuxième partie de l'émission avec l'Olympique Lyonnais, toujours en football, en Ligue des Champions ce soir face à la Juve. Le coronavirus perturbe un petit peu en ce moment évidemment les esprits italiens et français. Est-ce qu'il fallait annuler la rencontre à cause de cela, mon cher Patrice? On en débattra, puis on parlera également de rugby, du 15 de France qui a fait un formidable début de tournoi destination, et puis une petite info tennis aussi qui vient de tomber, évidemment, puisqu'une grande championne a arrêté sa carrière. Mais avant de commencer, on va accueillir Mathieu. Eh bien, qui est Mathieu? C'est un stagiaire de Radio Couleur Chartreuse, un magnifique stagiaire, eh bien, qui fait du sport, un stagiaire à RCC qui fait du sport. On n'en a pas tous les jours. Il est avec nous en direct. Salut Mathieu.
Bonjour Jules.
Comment ça va?
Bah bien.
Alors, quel âge as-tu déjà?
J'ai 15 ans.
Alors, 15 ans, et tu fais de la moto-trial. Et c'est cela que tu voulais nous parler. Tu vas lancer ce Chartreusement Sport avec ta passion. Donc, explique-nous un petit peu déjà ce que tu fais, si tu en fais en club.
Et eh ben moi je ben un peu de zone de parcours, le trial ça consiste un peu à franchir des obstacles naturels ou artificiels. Quand c'est naturel, c'est plutôt des rochers, des racines. Ben voilà.
D'accord. Et donc t'en fais en club?
Ouais, dans un club qui s'appelle TSA Saint-Étienne-de-Crozet.
Saint-Étienne-de-Crozet. Donc qu'est-ce qui te plaît dans ce sport? C'est l'adrénaline, c'est l'esprit d'aventure.
Bah ouais, je sais pas comment dire, mais il y a un peu des sensations, on va dire.
Ouais.
Faire des montées, des descentes, monter sur des rochers.
Alors, c'est vrai que le décor s'y prête, là-bas, bien sûr, mais en Chartreuse, il y a quand même pas mal de terrain. Alors, c'est aussi en VTT, en cross-country, tout ça. Mais est-ce que tu viens en Chartreuse, des fois, pour faire de la moto? Non,
non, pas du tout.
Ça pourrait être... Tu sais s'il y a des terrains adaptés à cela?
Ça, non, ça, je ne sais pas.
Tu sais pas? D'accord. Et quelle sortie, donc, tu en fais combien de fois par semaine?
Une fois par semaine.
Une fois par semaine. Quel jour?
Si le dimanche.
On fait tout l'agenda de Mathieu. Le dimanche.
Le dimanche matin.
D'accord, dimanche matin, donc il faut se réveiller tôt. Quoi.
Ouais, c'est ça.
Et donc, des compétitions, très certainement, après. Je ne sais pas si tu avais prévu de nous en parler.
Bah oui, alors il y a des compétitions amicales où il n'y a rien à gagner, mais c'est juste comme ça.
D'accord.
Et ça dépend, ça se fait un peu partout. Mm-hmm. Et autrement, il y a ça s'appelle les compétitions outdoor, ça veut dire c'est plutôt à l'extérieur. Il y a le indoor, c'est plutôt à l'intérieur. Sauf c'est plus pour les champions, les gens forts.
Différents types de parcours, quoi.
Voilà.
Différents types de championnats, d'accord. Toi, tu prends part souvent en compétition? Alors ça reste rarement. Dans le loisir. Rarement?
Ouais, souvent, c'est plus pour le loisir.
Pourquoi, justement?
Parce que je n'ai pas envie de me mettre la pression et ouais. Ça suffit juste pour le loisir.
Donc il y a plutôt cet esprit, donc comme tu me dis, il n'y a pas non plus énormément de compètes, donc c'est plutôt de la moto pour se faire plaisir, quoi. C'est un petit peu le but du club.
C'est ça.
D'accord, ok. T'en fais un petit peu en dehors également?
Non.
Du club, non. Et qu'est-ce qui t'a poussé alors à aller vers cette activité-là? Parce que c'est vrai que c'est pas commun, il y a peut-être de plus en plus de clubs en France, je sais pas si...
Ça, je sais pas, mais moi, c'est mon père qui m'a mis quand j'étais plus petit.
D'accord.
Et ça m'avait plu, donc j'ai continué.
D'accord, donc c'est une aventure un peu familiale.
Voilà, ouais.
Parce que ton père en faisait depuis longtemps?
Ouais, ça doit faire 40 ans qu'il en fait.
Et t'as des projets après un petit peu?
Non, c'est juste pour le loisir comme ça.
D'accord.
Et je veux continuer comme ça, pas juste pour le loisir.
Ce serait pas une idée de métier, par exemple?
Non, pas du tout.
Non. Ok, d'accord. Eh bien, écoute, Mathieu, je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose.
Non, c'est bon.
Mais en tout cas, c'était un grand plaisir de t'avoir. Donc, stagiaire à Radio Couleur Chartreuse. Allez, comme on sait que c'est du sport quand même d'être dans les locaux de RCC et d'être en stage. Lucas, d'ailleurs, que je remercie et que j'accueille dans Chartreusement Sport. Évidemment, notre grand technicien derrière la vitre. Qu'est-ce que je disais? J'en perds mes mots. Oui, Qu'est-ce que tu fais en quelques mots? Parce que les auditeurs, ça les intéresse en stage à Radio Couleur Chartreuse.
En stage, ce que je fais en stage? Eh ben, je regarde un peu, je découvre la radio, pour savoir ce que c'est, comment on fait, voilà.
D'accord.
Tu participes aussi à la matinale, je crois.
La matinale?
Ouais, j'ai participé deux fois.
Comment ça se passe la matinale, Catherine, là, en ce moment?
Bah, j'ai juste lu là, les nouvelles sur le livre. Et voilà. Et après, voilà.
D'accord. Okay. Ça serait bien. Eh bien, écoute, merci Mathieu d'être passé dans
Chartreuse merci
dans
à vous.
Sport, stagiaire à Radio Couleur Chartreuse et qui donc fait de la moto trial. Et pourquoi trial d'ailleurs? Dernière question. Juste, j'ai oublié de poser cette question.
Bah, je sais pas, parce que mon père faisait du trial, du coup il m'a accompagné là-dedans. Et...
Donc il y a différents types de motos. On est en train de revenir sur l'interview là, mais c'est pas grave, on apprend des choses, c'est l'essentiel.
Bah, il y a la motocross où c'est plus de la vitesse, genre des courses. Mm-hmm. Et après, il y a MotoGP, mais ça, c'est plus les grands prix, c'est sur la route et tout.
MotoGP, ouais, c'est plus professionnel, ouais.
Ouais, c'est
on entend
vraiment
beaucoup avec la Formule 1.
Bah ouais, voilà, c'est pareil que la Formule 1, mais en moto.
MotoGP, tu suis un petit peu?
Ouais, un peu.
Un petit peu, d'accord. Ouais. Et c'est qui ton modèle?
Bah, j'en ai pas trop, mais plutôt le français Zarco.
Ouais, Zarco.
Joan Zarco.
Il n'y a pas Quartararo aussi qui est en train de monter, là?
Ça, je sais pas, j'ai pas vu.
Le jeune français de MotoGP. En tout cas, on te remercie. Et puis, bonne fin de stage à Radio Couleur Chartreuse. Et puis, continue évidemment dans la moto. Je rappelle, Mathieu, moto trial, passion, sensation d'aventure et d'adrénaline. Merci d'être passé.
Merci à vous.
Tu vas faire de la moto là, tout de suite?
Non.
Non. Allez, on va passer au sport chartreusin désormais, puisque, eh oui, la saison, même si Chartreusement Sport n'est plus une émission régulière, eh ben, on n'a pas arrêté à cause de nous. Ici, on continue à faire du sport avec l'AS Rivière-Oise en foot, avec Miribel Les Échelles, le Chartreuse Guay, le basket avec le Chartreuse Basket Club. Enfin, vous connaissez, vous êtes habitué de Chartreusement Sport de l'année passée, des dernières saisons précédentes. Il y a évidemment une ressource incroyable au niveau sportif ici dans notre vallée. On passe à tarder là-dessus. Directement, cher Patrice, on va commencer dans les domaines où tu es le plus spécialiste, c'est-à-dire l'AS Rivière-Oise et Miribel Les Échelles en football.
Bah oui, parce
que se passe-t-il en Chartreuse avec ces clubs-là?
Bah, ce week-end, les deux Saint-Joseph-Rivière jouent à l'extérieur. Enfin, je rappelle que Saint-Joseph-Rivière joue en division 3. Mm-hmm. Miribel aussi, d'ailleurs, ils sont dans la même poule, hein, qui est la poule B de la division 3. Alors, il y avait bon que Saint-Joseph-Rivière s'est déplacé à Chirin. Chirin qui est le dernier de la poule. Alors, match relativement facile pour Saint-Joseph. Ils ont gagné 3-0 sur un terrain synthétique. Je suis allé les voir. Ils ont récupéré deux joueurs qui étaient blessés en première partie de saison et qui sont revenus et qui ont amené beaucoup à l'équipe. C'est vrai qu'ils ont bien joué. Ce dimanche, j'étais très content d'eux.
Mais c'est vrai que c'est quand même compliqué au niveau de la saison générale, quoi.
Ah bah oui, c'est compliqué parce qu'il y a souvent des blessures, malheureusement.
Ah, des blessures.
Et à Saint-Joseph, on a un peu des habitués aussi au carton rouge. Donc il y a eu un carton rouge en début de saison.
Je vois les statistiques de résultats devant moi sur le téléphone. 6 matchs gagnés, un match nul seulement et 12 défaites. C'est vrai que c'est quand même un bilan assez négatif.
Ah, ça, on peut dire que le bilan soit bien beau, hein, ça c'est sûr. Hein.
C'est sûr.
Mais bon, je pense qu'il y a une deuxième partie de saison qui sera peut-être plus jouable pour Saint-Joseph. Hein.
D'accord.
Comme je le dis, hein, s'il n'y a pas trop de cartons, s'il n'y a pas trop de blessures. Hein.
Le prochain match, c'est à domicile.
Le prochain match, c'est le 8 mars. C'est pas ce week-end-là, ça sera le week-end prochain.
Dans 15 jours, 8 mars à 15h.
À 15h.
L'AS Rivière-Oise accueille le FC du Lierre.
Oui.
D'accord. Mais ça va pas être facile.
Ah non, non, parce que
je vois que le FC du Lierre est troisième.
Troisième de la poule, et bon, ça va être costaud. Hein.
Ça va être costaud.
Mais bon, hein, il faut, maintenant, je suis désolé, mais Saint-Joseph, s'il veut se maintenir dans la poule, il va falloir gagner les matchs. Hein.
Ouais, parce que comme tu dis, Saint-Joseph de Rivière, dixième, avec une place d'avance sur l'ennemi. Non. Pas l'ennemi, Miribelois, mais le rival, Miribelois quand même.
Miribel aussi, ils ont joué ce week-end à Saint-Lathier, Saint-Lathier.
Un point d'avance sur Miribel.
Et ils ont perdu, donc Saint-Joseph se retrouve devant Miribel, avec un point d'avance.
Ouais, comme tu le disais, exactement.
Et puis,
ça va peut-être jouer entre le maintien entre Saint-Jo et Miribel.
Ah bah oui, ça pourrait bien. Je crois que le derby, ça va être en mars. Sur le stade de Saint-Roch à Miribel les Échelles, faudra pas le louper. Hein.
Qui sera favori de ce derby?
Pardon ?
Qui sera favori de ce derby ?
Ah bah j'espère que ça sera Saint-Joseph au moins. Hein.
Saint-Joseph est favori.
Non, il n'y a pas de favori.
Ils sont nouveaux en
classement. Non, j'espère que Saint-Joseph gagne parce que je suis rivérois. Mais
on n'est pas neutre.
Favori, c'est difficile. C'est difficile à dire.
C'est difficile à dire, forcément. Et Saint-Cassien est leader du championnat hein, pendant qu'on y est.
Pardon, excuse-moi.
Saint-Cassien est leader du championnat.
Saint-Cassien, leader du championnat. Je les avais joué à l'aller, là. Grosse équipe, là. Oulala.
Avec des jeux. C'est assez serré, quand même, dans cette poule, hein.
Oui, c'est vrai que je dirais qu'entre le. On va dire que le classement, Saint-Cassien domine quand même 28 points. Après, il y a Saint-Nathier derrière. Mais après, derrière.
Bon, c'est vrai qu'il y a 8 points seulement entre le 6e qui est la Murette,
voilà, la Murette
et le leader de Saint-Cassien. Quoi.
Voilà, donc c'est vrai que 2 matchs de suite gagnés, on remontera facilement. On remonte facilement dans la poule. Hein.
Mais bon, l'objectif, on rappelle que c'est quand
maintien,
même.
L'objectif, c'est le maintien pour les deux équipes, hein, aussi bien Saint-Joseph que Miribel.
Voilà, donc c'est une division 3. On le rappelle que l'AS Rivéroise était montée aussi l'année dernière, puisqu'ils étaient en division 4. On avait suivi évidemment leur épopée et puis le succès derrière lors d'un match, je me souviens, je sais plus contre qui, en fin d'année, c'était chaud, c'était incroyable. Et il s'était imposé pour le match de la montée chez les Turcs, je crois.
Oui, contre les Turcs à Grenoble.
À Grenoble, c'est ça, exactement. Chez Miribel, les échelles, mon cher Patrice.
Miribel.
Ouais, du côté de. Alors bon, c'est la même poule, on est d'accord.
Poule.
Mais au niveau du jeu, bon, au on a cité jeu, le classement, ils sont derrière. Hein.
Oui, donc, ils ont un point. Et jusqu'à maintenant, ils étaient devant Saint-Joseph. Saint-Joseph ayant gagné ce week-end.
Exactement la même situation.
Ils sont passés devant, mais bon, je dirais que le niveau, c'est semblable à Saint-Joseph de Rivière.
Pourtant, Miribel les échelles
étaient
au-dessus ces dernières années quand même.
Ah bah oui, c'est vrai. Ils ont recruté pas mal de bons joueurs. Ils ont de bons joueurs.
Donc est-ce qu'il n'y a pas un petit changement?
Ils ont aussi deux blessés, je crois aussi.
Ouais. Hein.
Voilà.
D'accord. Bon, écoute, du coup, on va voir ce qui va se passer en fin de saison.
Il y aura un super derby là. Faudra pas le louper. C'est tout.
Un super derby en mars.
En mars.
Tu nous dis entre Saint-Joseph de Rivière football.
Ah, Miribel les échelles. Hein.
Et exactement. J'ai dit quoi? Oui, Saint-Joseph de Rivière contre Miribel les échelles. Ouais. Saint-Joseph de Rivière a une belle équipe aussi, des U15 Kids.
Ah, les petits jeunes de U15,
cartonnés.
L'année dernière, cartonnés, ils ont des champions de l'Isère d'ailleurs. Hein.
Ouais.
Et cette année, c'est la première année qu'ils jouent en U18-19.
Que se passe-t-il alors?
Là, c'est dur, hein, c'est dur. C'est très, très dur. Ils ont gagné un match, ils ont fait match nul,
Est-ce
je crois.
Est-ce que tu connais leur place dans le classement?
Non, je ne sais pas leur place, mais bon, c'est on va dire en milieu de tableau, voire plutôt sur le bas. Hein,
donc ils jouaient plutôt le maintien alors.
C'est le maintien, c'est le maintien qui a été demandé par le coach, le maintien. Mais c'est la première année qu'ils montaient en U18, U19, ils sont encore U17, ils sont encore jeunes. L'année prochaine, ils vont prendre un peu plus de poids, un peu plus de technique. Et je suis persuadé qu'ils feront beaucoup mieux. Hein.
Parce qu'il y a quand même on retrouve quand même une base, Patrice, chez eux, parce que l'année dernière, alors on se rappelle qu'il y a 2 ans, c'était quand même très très compliqué, hein, vraiment en difficulté. Derrière, l'effectif a été étoffé, puis eux-mêmes ont pris de l'expérience, ont pris de la maturité. Donc l'année dernière, il y avait une saison super intéressante, comme tu l'as dit, en U15 Kids, champion d'Isère. On retrouve quand même cette base en U18.
Ah oui, c'est pratiquement les mêmes joueurs. Il y en a un qui est arrivé, un jeune, hein, qui n'est pas mauvais d'ailleurs. Mais autrement, c'est la même base, les mêmes joueurs. La même envie de jouer, ouais, et puis bon, c'est vrai qu'ils en bavent un peu cette année, mais bon, c'est normal, hein, c'est normal.
Bon, on va voir, comme pour l'équipe Fagnon, d'ailleurs, Miribel Les Échelles et Saint-Joseph-de-Rivière, ce qui va se passer en vous tiendra évidemment au courant dans Chartreusement Sport. Du côté de l'US Chartreuse-Guay, les amis, je vais annoncer Patrice se retire.
Chartreuse-Guay, j'ai pas trop suivi, c'est vrai.
Bon, on a tous ces domaines de prédilection, même au niveau sportif, même en interne, en Chartreuse. Et j'avais noté les résultats de l'US Chartreuse-Guay sur mon téléphone portable. Vous savez, la technique maintenant, à la radio. Et oui, on n'écrit plus sur les fiches, on regarde sur les portables. En studio. Le prochain match, je vous l'annonce, des seniors de l'USCG, si vous voulez aller les voir jouer en football toujours. Donc, les garçons, ça sera le dimanche 22 mars, ça sera contre Biolay Pro FC, ça sera à 15h, donc en championnat. Les seniors qui restent justement sur un match nul en haute parenthèse. Score final, 2-2, c'était la semaine dernière. Quelques échos quand même pour l'USCG.
Je crois que. Au classement, tu me dis, Julie, sont combien?
Alors au classement, j'ai pas le classement sous la main. Je suis
d'accord,
désolé.
D'accord. Mais bon, je crois qu'ils vont se maintenir quand même. Hein.
Oui.
Le maintien est assuré ou presque, je crois quand même. Hein.
Quasiment.
Oui, quasiment.
D'accord. Bon, c'est aussi une progression pour eux. On rappelle que c'est quand même le club qui est, enfin, je dis une progression, pas forcément cette année, mais sur les dernières années. À chaque fois, il y a 4-5 ans, ils faisaient l'ascenseur. Tu sais, ils descendaient d'une division à une autre, puis ils remontaient, puis derrière, ils redescendaient. Là, il y a eu une certaine stabilité.
Oui.
Donc, la progression du club est intéressante.
Oui. Et puis, c'est quand même le club, je dirais, le club phare quand même de la région. Hein.
Le plus haut niveau, oui.
Plus haut niveau, hein.
Ouais, c'est exact. Voilà pour le foot. Quelque chose à rajouter au niveau football?
Au niveau foot, non. Sur le plan local, non.
On retrouvera du foot dans la deuxième partie de l'émission pour parler de la Ligue des Champions, point de vue national et même européen. Du coup, puis on finira sur du GF 38, puisque notre club local isérois en Ligue 2 est plutôt pas mal en championnat.
C'est pas trop mal.
Des nouvelles avec Patrice dans la deuxième partie de l'émission. Au rugby, suis-tu le Chartreuse Rugby Club cette année, Patrice?
Non, je suis pas. Moi aussi, je suis allé voir les petits jeunes, les tout petits jeunes qui débutent au rugby. Maintenant, mon petit neveu qui a sa première année de rugby, c'est vraiment. Je suis allé voir deux fois. Je disais que mon bilan, je veux dire que c'est des jeunes qui ont envie de jouer, mais qui apprennent très très vite à faire des. Ils n'ont pas le droit de faire des gestes. Mais autrement, ils se débrouillent très très bien.
Ils n'ont pas le droit de mettre une intensité énorme.
Oui, voilà, c'est ça. Ils sont quand même canalisés pour pas se blesser. Hein.
Ouais, parce que c'est
marrant de voir ces jeunes avec cette envie de jouer. En fait, c'est des jeunes qui jouent aussi bien les femmes que ils jouent ensemble, hommes et femmes, jeunes et jeunes filles. Et mais c'est intéressant de les voir jouer. Je trouve qu'ils progressent très très rapidement et puis ils sont bien très très bien coachés.
Mais Patrice Mollier, c'est intéressant ce que tu dis, chers auditeurs, auditrices, parce que ça nous amène également sur l'objectif du Chartreuse Rugby Club, c'est de développer au maximum son école de rugby.
Ah, d'accord.
De plus en plus d'équipes qui se sont mises en place. Et je ne sais plus si vous vous souvenez, on a eu Alexandra Pellegrini, qui est la présidente du club, qui est également dans cette optique-là. Il y a beaucoup de manifestations de ce type-là, justement, qui sont organisées pour aller vers cet objectif-là.
Il y a une très bonne école de rugby.
Avec Laurent Dodos, d'ailleurs, qui est un très bon coach.
Ils prennent les jeunes très très jeunes, ils prennent les petits très très très, très jeunes et ils les forment très très bien.
Et au niveau du classement pour l'équipe première, l'équipe Fanion, les seniors 1 du Chartreuse Rugby Club, c'était une très très bonne saison puisqu'ils sont deuxième du championnat, mon cher Patrice.
Deuxième du championnat
avec 52 points après 16 matchs.
Et le
après
premier,
16
combien,
matchs, le premier c'est Vif qui a 65 points, donc plus de 10 points d'avance sur CRC. Alors la deuxième place n'est pas acquise puisqu'il y a Terre Froide qui ont le même nombre de points avec 52 que le CRC qui est deuxième, donc Terre Froide troisième. C'est à la différence de points et avec les bonus que ça se joue.
Ouais.
Mais en tout cas, voilà, l'équipe première est là. Assure et ça influence sûrement les jeunes, justement.
Ah oui, je pense, oui. Notre deuxième, je trouve que c'est un très très bon classement pour l'équipe première. Hein. Comme vous dites, comme tu dis, Jules, les petits jeunes, ils vont voir aussi après les matchs avec des grands. Et
ils se retrouvent tous.
Ils se retrouvent
en plus
tous
avec le nouveau clubhouse.
Voilà, c'est ça, ils se retrouvent tous.
Il y a un nouveau clubhouse qui a été
construit
au stade de Saint-Laurent-du-Pont, avec les vestiaires qui sont maintenant au stade de Saint-Laurent-du-Pont.
C'est clairement neuf.
Hein, clairement neuf, parce que quel était le problème? Que devaient faire les joueurs du Chartreuse Rugby Club, Patrice?
En fait, le problème, c'était ils avaient le même bâtiment entre le foot et le rugby.
Ouais.
Hein.
Alors, du coup, c'était faire un long trajet.
Voilà, il fallait faire un long trajet. Puis même,
pour aller au vestiaire.
Le bâtiment du foot là, actuel n'était pas assez grand pour avoir ces deux équipes. Il fallait faire. Donc, la municipalité de Saint-Laurent-du-Pont a décidé de faire un bâtiment spécial rugby.
Et un bâtiment très moderne.
Ah oui, très
beau.
Qui
respire la classe quand même.
Hein. Ah oui, très très beau. Il y a une salle de musculation intérieure. C'est très très bien fait.
L'équipe réserve du CRC pour le classement également. On a parlé de la très belle deuxième place provisoire du CRC Senior 1. Chez l'équipe réserve, c'est une cinquième place au classement sur 10 équipes. 42 points. Pour le CRC, équipe numéro 2. Le premier, c'est Vif, qui est à 75 points. Bon, là, le CRC est cinquième. Voilà, ils sont un petit peu plus en difficulté. Ils ont 5 points de retard sur le quatrième, qui est Chartreuse-Néron. Voilà, même nom que la Chartreuse, mais ce n'est pas en Chartreuse. Et puis, ils ont même nombre de points que Terre Froide 2, justement, après un petit écart sur le Grenoble Université Club, le GUC. On appelle cette équipe le GUC. 7e et 8e, Grésivaudan. 9e, Pontcharrat. 10e, Saint-Martin-d'Air. Voilà, beaucoup de chiffres, beaucoup de noms que je vous donne, mais c'est un petit peu pour situer contre quelles équipes affrontent les formations chartrousines cette année au niveau sportif. Quelques petites annonces au niveau rugby également, des manifestations qu'organise le Chartreuse Rugby Club, puisqu'il y aura la matinée Boudin le dimanche 1er mars. Patrice?
Non, je dis, après que tu annonces, j'en annoncerai une aussi à Saint-Joseph.
Ah, d'accord, pas de problème. C'est vrai que ça marche, hein, ces activités, ces événements extrasportifs, pour apporter un petit peu de monnaie dans nos caisses, puisque ça fait vivre également, bien sûr qu'il y a cet aspect de loisir, mais il faut aussi payer toutes ces infrastructures et pouvoir jouer dans de bonnes conditions. Patrice, tu avais cette information à Est-Rivieroise.
Concernant la Est-Rivieroise, l'association Sport Rivieroise, elle organise le 7 mars, c'est-à-dire dans une petite quinzaine de jours, un concours de belote pour la troisième année consécutive. Ça va se dérouler à la salle d'animation rurale à Saint-Joseph-de-Rivière. Il y a en gros 5000 euros de lot à gagner. Le premier lot, c'est quand même un voyage de 8 jours là-bas, dans le midi, avec un appartement et tout. Hein, c'est très bien fait, voilà. Et on vous espère.
Pour aller jouer au rugby, pour rejoindre le rugby dans le midi, voilà.
Oui, plutôt le foot.
Oui, là, c'est le foot, mais.
C'est pas grave. Donc rendez-vous le 7 mars 2020 pour à Saint-Joseph-de-Rivière pour le concours de belote.
Et je reviens sur ma matinée boudin. On s'enchaîne les activités et les événements. C'est à la salle des associations, au rugby. Ne vous perdez pas entre belote et boudin, quand même. C'est pas exactement la même chose. Nous, on mange pas du boudin parce que ça va grossir et parce qu'on perd notre activité physique. Et on est une émission de sport. J'ai quelques petites infos également à vous faire parvenir. On a quelques petites informations à vous faire parvenir. Et Patrice va compléter mes propos. Au niveau cyclisme, on a eu le dévoilement, je ne sais plus si ça se dit, le dévoilement, peut-être, on s'en fiche, en tout cas le parcours a été désigné, parcours de ce Critérium du Dauphiné 2020 en cyclisme, l'épreuve dauphinoise, et on a une étape qui arrive au Col des Portes.
Oui, effectivement, cette année, le Critérium du Dauphiné 2020, il y a une grosse étape qui va se faire le jeudi 4 juin, c'est l'étape Vienne, Col de Porte, alors que c'est tout nouveau, ça a été annoncé cette année. C'est une étape qui va faire 133 kilomètres. Hein. Voilà.
Et départ de Vienne, il fera beau, Col de Porte. Début juin, il fera beau, il fera soleil, et puis on aura une très très belle étape.
Oui.
Pour la préparation du Tour de France.
Oui,
j'espère qu'on aura un meilleur temps qu'aujourd'hui, voilà. Puisqu'il va pleuvoir à Saint-Laurent-du-Pont en ce moment, mercredi 26.
Je pense qu'il y aura du monde sur le Col de Porte aujourd'hui.
On a de la marge.
Je disais qu'il y avait certainement beaucoup de monde au Col de Porte.
Exactement. Ouais. Et comment on va s'organiser du côté du Col de Porte? Comment on va trouver de la place? Ça, c'est une question qu'il faudra poser aux organisateurs prochainement. Le Col de Porte Terre de Sport, puisqu'ils accueillaient les championnats de France, une étape du championnat de France de biathlon. Il y a quelques jours. Donc, voilà, on n'a malheureusement pas pu nous y rendre. Mais c'est une petite annonce. Donc, Critérium du Dauphiné, Radio Couleur Chartreuse essayera de mettre en place un studio mobile.
Oui, on essaiera de faire une journée.
Pour faire en direct l'événement.
C'est donc c'est à définir, à voir avec les organisateurs comment on peut faire. Voilà.
Voilà. Donc, c'était l'info cyclisme, Critérium du Dauphiné. Avant de marquer une petite pause, les amis de Parler Musique, eh bien, écoutez, je veux juste souhaiter un très bon anniversaire à Monique, qui est habitante de Berlan, c'est la véritable mascotte de la commune. Elle fête ses 84 ans et aujourd'hui, c'est mercredi 26 février 2020, 84 ans pour une fidèle auditrice de Radio Couleur Chartreuse et de Chartreusement Sport. Ça fait plaisir, joyeux anniversaire à Monique, j'allais dire joyeux anniversaire musique, mais on y va. Let's go avec Dua Lipa, on se retrouve dans la deuxième partie de l'émission. On va parler biathlon, on va appeler Pierre Alédo, un de nos consultants ski, qui nous parlera eh bien, d'un certain Émilien Jacquelin qui est en train de briller sur les étapes de Coupe du Monde. Il a réalisé un sacré coup il y a quelques semaines et il sera avec nous, Pierre, pour nous parler de tout cela. On parle foot également, Ligue des Champions, dans la deuxième partie de cette émission. Dua Lipa, à tout de suite sur Radio Couleur Chartreuse. I'm better on the other side.
Chartreusement Sport. Chartreusement Sport. L'actualité du sport animée par Jules.
De retour sur Radio Couleur Chartreuse dans Chartreusement Sport. Et oui, on est de retour. Ça faisait très 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 longtemps que vous nous aviez pas entendu à l'antenne. Mais on est là pour parler sport pendant une heure, enfin maintenant une demi-heure, sur RCC avec toujours notre magnifico, el incroyable, Patrice Mollier.
Oui, rebonjour à tout le monde. Comment, salut Jules.
Comment ça va?
Ça va.
Ça va, ça va. Écoutez, on a déjà posé cette question dans la première partie de l'émission, mais bon, on se répète, on se demande si ça va bien, et je crois qu'il y en a un qui va bien derrière le téléphone. Il est chez lui, tranquillement, à Saint-Pierre-de-Jeunbro, sur son fauteuil. C'est Pierre Alédo, notre consultant spécial biathlon. Salut Pierre.
Ça va, salut.
Comment ça va,
Très bien.
Que fais-tu en ce moment en direct?
Eh ben, j'attendais ton coup de fil parce que tu m'as dit que tu avais des petites questions sur à propos du biathlon.
Exactement, tu n'es pas parti puisqu'on rappelle que Pierre, c'est déjà un amateur de biathlon, mais aussi un amateur cycliste, bien sûr de cyclisme. Mais je l'ai croisé lundi autour du lac d'Aiguebelette, il faisait des tours. Là, le temps n'est pas très très propice à un tour de vélo.
Non, en ce moment, c'est pas le jour où il faut aller faire du vélo. Un petit peu de neige, un petit peu d'averse. Pas forcément le jour. Ouais.
Mais Pierre va participer à un trail, je crois, à Saint-Christophe-la-Grotte.
Ouais, et c'est ça. Alors,
tu nous en parleras juste après. On fait juste le biathlon et comme ça, on parlera de cet événement avec toi. Dans cette saison de biathlon, on voulait t'appeler parce que l'équipe de France est de retour à un top, top, top niveau.
Ah oui, carton plein pour l'équipe de France hein, sur ces mondiaux en Italie. Alors, les Français qui ont ramené trois titres. Le tout premier avec Martin Fourcade, hein, sacré sur l'individuel. C'est vraiment une course qui est faite pour lui, 20 km, c'est une course d'expérience, donc vraiment toutes les qualités de Martin. Ensuite, on a Émilien Jacquelin qui nous a fait une grosse surprise hein, sur la poursuite.
Là, c'est pour les championnats du monde. Hein.
Oui, oui, voilà, ce championnat du monde de biathlon hein, qui sont déroulés en Italie cette dernière semaine. Et ensuite, le relais français qui a encore brillé, troisième médaille d'or et troisième titre pour l'équipe de France.
Donc, c'est vraiment une équipe de France qui revient à ses heures de gloire. Quoi. Parce que c'est vrai que l'année dernière, même en Coupe du Monde, classement général sur toute la saison, tu vas nous en parler. Mais c'est vrai que c'était quand même difficile l'année dernière.
Hein. L'année dernière, on l'a bien vu. Hein, déjà, on peut parler de la saison un peu ratée de Martin Fourcade. Ouais. Qui a raté son premier gros globe de cristal depuis, ça faisait très longtemps, enfin c'était la première fois depuis plusieurs années qu'un autre athlète que Martin Fourcade gagnait le gros globe de cristal. Donc oui, on a une équipe de France en général, pas que Martin Fourcade, hein, qui revient vraiment en pleine forme cette saison. Et donc ça fait vraiment du bien pour le biathlon français.
Martin Fourcade qui va peut-être reprendre justement ce gros globe de cristal à la nouvelle star du biathlon mondial, Johannes Bö. Quoi, cette année, ça a l'air bien parti. Il est leader du classement général. Hein.
Il est leader du classement général, oui, mais faut se méfier hein, parce qu'on peut voir, on l'a vu hein, encore sur ces mondiaux que Johannes Bö était présent. Hein, il a vraiment un niveau excellent. Pour l'instant, oui, c'est assez bien parti. Il reste trois étapes pour Martin Fourcade et tous les autres pour essayer de garder ce maillot.
Ce dossard qui effectivement essaye de coller à la peau de Martin Fourcade. Il y a combien de points d'avance pour le génie français?
Actuellement, il doit rester une petite centaine de points d'avance, hein, sachant que. Il y a 60 points par course, ouais. 60 points maximum par course à gagner. Donc 60 points pour le premier. Et après, pour le deuxième, par exemple, ça peut être 56. Donc vraiment, il y a des écarts très faibles. Donc si Martin Fourcade reste dans le podium, aux alentours du podium jusqu'à cette fin de saison sur à peu près toutes les courses, il serait à l'abri hein, d'un retour de Johannes Bö.
Les autres Français carburent également parce qu'on a Quentin Fillon-Maillet, parce qu'on a Simon Détieux, parce qu'on a Émilien Jacquelin. Comment ça se passe pour eux en Coupe du Monde?
En Coupe du Monde, on a vraiment toute cette équipe de France hein, qui nous a fait remporter le relais sur cette dernière étape de championnat du monde. On a vraiment une très grosse équipe de France hein, Parce que on parle souvent de Johannes Bö, mais le deuxième au classement général de la Coupe du Monde, c'est pas Johannes Bö, c'est Quentin Fillon-Maillet.
Oui.
Pour l'instant, donc quand on parle de Johannes Bö, il faut aussi se méfier du retour de Quentin Fillon-Maillet sur Martin Fourcade. Ensuite, on a aussi notre Simon Détieux et Emilien Jacquelin, qui sont respectivement 5e et 7e du classement général de la Coupe du Monde. Donc vraiment une équipe de France qui est vraiment, en tout cas du côté des hommes, beaucoup dans une très bonne dynamique.
Des petites nouvelles de Antonin Guigona, Pierre, parce que c'est vrai que l'année dernière, on y était allé ensemble, l'équipe de Chartreusement Sport au Col de Porte, d'ailleurs, pour une étape de la Coupe de France. Il était avec nous, on lui avait posé des questions, on avait pu s'entretenir avec lui comme avec son père, Pierre Guigona. Pour cette année, c'est quand même assez compliqué.
Ouais, pour Antonin, c'est un peu plus dur, hein. Vraiment, heureusement qu'il y a le reste de l'équipe de France qui est là pour élever le niveau. Mais c'est quelqu'un qui va s'accrocher, je pense. Il faut vraiment qu'il s'accroche et qu'il prenne exemple sur le reste de la délégation française, parce qu'il y a vraiment un très gros niveau.
On parlait d'Emilien Jacquelin, notre Isérois, évidemment, qui a eu un retour triomphal, franchement, quand il est revenu dans son département natal, depuis son titre donc au championnat du monde d'Antols. On le savait depuis plusieurs années, il était là, c'était la pépite, mais là il explose vraiment, vraiment cette année.
Hein. Bien sûr, c'est formidable pour lui, pour toute l'équipe de France. C'est la relève du biathlon, on l'annonce comme la relève du biathlon français et on est très très fiers d'avoir dans notre équipe, pas que cette année, hein, vraiment pour toute la suite du biathlon. Il a un très bon exemple, il a des très bons exemples là, en équipe de France, quand on voit le niveau de Quentin Fillon-Maillet et la légende de Martin Fourcade, on voit qu'il y a vraiment du très gros potentiel dans cette équipe de France.
Qu'est-ce qu'il a de spécial, Emilien Jacquelin ?
Emilien, je pense que c'est quelqu'un qui passe après une génération, enfin en tout cas après un Martin, qui a écrasé le biathlon français mondial pendant plusieurs années. Et donc, je pense qu'il a de spécial, c'est vrai qu'il va devoir, se faire sa propre histoire, et ça va être des beaux moments sur les prochaines saisons avec Emilien.
On n'en est pas encore là, mais il peut être plus fort et laisser une plus grande trace que Martin Fourcade.
Laisser une plus grande trace que Martin Fourcade, ça va être très très compliqué.
Ouais, quand même.
On va peut-être pas en arriver là pour Antonin, mais après, oui. Il a vraiment énormément de potentiel. Je pense que c'est un biathlète, enfin un des meilleurs biathlètes mondiaux. Hein, on le voit dans ce titre en poursuite qu'il a obtenu, puis dans le classement général de la Coupe du Monde. Donc il a énormément de potentiel. Après, égaler, voire dépasser Martin Fourcade, c'est vraiment quelque chose qui est encore très très compliqué.
Patrice, à côté de moi, peut-être une question pour toi.
Non, une question pour toi. Bonjour d'abord, excuse-moi. Je suis quand même déçu. Ben, les hommes, c'est parfait. Hein. C'est vrai qu'ils ont 4 emplois pour les hommes, on va dire comme ça. Mais les féminines, qu'est-ce que tu en penses ?
Sur cette saison, pour les filles, c'est beaucoup plus compliqué. Hein. On peut dire qu'elles ont fait un 0 pointé. Hein. Vraiment, c'est bien dommage. On a vraiment une équipe de France féminine qui a un énorme potentiel. On le voit en relais, les femmes ont un niveau assez équivalent entre elles, un niveau moyen, donc elles peuvent peser sur le relais, mais individuellement c'est beaucoup plus compliqué parce que en face il y a des filles qui sont vraiment sur un niveau beaucoup plus élevé que ça, qui ont un niveau excellent dans les autres nations, donc c'est très difficile pour elles de suivre.
Difficile, c'est chez les dames. On espère qu'il y aura une fin de saison plus explosive et plus bienveillante ou voilà quoi. Vous m'avez compris.
Oui, on t'a compris.
Ouais.
On laisse un petit peu de côté de biathlon, mon cher Pierre. On va parler de trail, puisque c'est vrai qu'on avait, j'avais pas percuté au début, mais tu vas participer en chartreuse à un trail aux Grottes des Échelles.
Ouais, c'est un trail début avril, un 12 avril, il me semble. Donc je vais participer, mais c'est surtout, c'est toutes les personnes de la vallée, toutes les personnes qui souhaitent participer, hein, qui souhaitent s'inscrire, qui vont participer. Donc c'est un trail. Il y a plusieurs activités, hein. Ce jour-là, il y a un trail de 9 km, un autre de 20 pour les plus motivés, et sinon une course en marche à pied. Donc c'est vraiment pour tous les niveaux.
J'imagine que tu vas aller chercher le 20 km, toi.
Non, alors le problème, c'est que pour aller chercher le 20 km, il faut avoir un âge, faut avoir passé un âge que je n'ai pas encore.
D'accord. Donc tu vas te consacrer aux 10 km.
Oui, bien sûr. Du coup, je vais m'entraîner pour 9 km.
Le parcours donc de ce trail, c'est quoi ? Un petit peu, ça passe par où ?
Alors le parcours, il passe plusieurs fois par la Ouassarve et par les grottes des échelles. Donc ensuite, il y a des montées au belvédère. Il y a une montée sur un belvédère en haut du massif, en haut de la Ouassarve. C'est un parcours qui est assez beau, vraiment. Avant de le faire le jour de la course, vraiment, je conseille d'aller voir, d'aller le faire en repérage avant, parce que c'est vraiment un parcours, pour ceux qui sont jamais allés, qui est vraiment beau, et que le jour de la course, on peut pas s'arrêter, on n'a pas le temps de s'arrêter, prendre une photo, parce que le point est sympa. Donc je conseille vraiment aux gens d'aller le repérer avant, parce que c'est vraiment un coin super beau.
Donc on va lier l'agréable au sportif avec toi, mon cher Pierre Alédo. Merci d'avoir été avec nous pour évoquer le biathlon, la Coupe du Monde des Français et Françaises et ce trail donc des grottes des échelles qui aura lieu le 12 avril. Merci à toi, passe une excellente fin de journée.
Et ben merci à toi, bonne continuation Jules.
Merci, ciao. Voilà, Pierre était avec nous par téléphone. Ça donne pas des idées à notre consultant Patrice Mollier d'effectuer ce petit trail là, le 12 avril.
Le trail, non, pas trop, non. Éventuellement, la marche à pied, oui, effectivement, je marche beaucoup, ouais. Avec Chartreuse Montagne notamment. Ouais. Et, mais le courir, non. J'ai des problèmes de genoux et ça m'a pas très conseillé.
Ah, ça pardonne pas. Il faudrait pas qu'on te casse en deux. Et que,
voilà. Mais la marche, il n'y a pas de souci.
Il n'y a pas de souci pour la marche. On revient à des infos un petit peu moins locales. Une info même mondiale, puisque en tennis, Maria Shavapova a arrêté sa carrière. On a eu, c'est une breaking news. On a eu des informations il y a quelques minutes. L'information il y a quelques minutes, celle qui comporte 5 titres du Grand Chelem, la tennisman russe. Elle avait été suspendue 15 mois de compétition à cause d'un contrôle antidopage positif. Quelle trace elle marquera, Patrice, d'avoir ta réaction là à chaud. Maria Shavapova arrête sa carrière.
Shavapova, je vous dis franchement, cette année, j'étais monté 2 fois à Roland Garros. Je l'ai vu une fois sur le court numéro 1. Oui, score numéro 1.
Sur le Philippe Châtrier.
Oui, Philippe Châtrier. Elle jouait contre, à l'époque, contre une Américaine. Je ne sais plus le nom. Elle avait gagné.
C'était pas Serena ? Non, c'était pas Serena Williams ?
C'est une femme qui est relativement assez grande, belle comme tout, russe, bien entendu. Et elle avait une technique exemplaire, je dirais. Elle était très, très, très bonne à l'époque. Hein. C'est dommage qu'elle ait eu ce petit problème, effectivement, comme tu disais, Jules. Ça peut prendre par la patrouille, on va dire comme ça, qu'elle a une suspension de 15 mois. Mais autrement, bon, elle commence à l'âge. Maintenant, elle commence à prendre de l'âge. Donc il faut
elle était revenue sur le circuit.
Oui, elle était revenue quand même avec un peu moins de pêche. Et puis elle faisait moins de résultats. Hein.
C'est vrai qu'on voit que c'est quand même très très compliqué d'arrêter au tennis, notamment, qui est un sport énormément exigeant et de plus en plus.
Ah bah oui, le tennis, c'est très exigeant, aussi bien au niveau des articulations, parce que le dos ramasse beaucoup, les genoux. Puis même, il faut un physique exemplaire pour ça. Hein.
5 titres donc du Grand Chelem pour Maria Shavapova, la Russe qui arrête donc sa carrière et qui ne fera plus partie du circuit professionnel. En tennis, on lit le tennis avec le football. Maintenant, on ouvre notre grande page Ligue des Champions, mon cher Patrice. Évidemment, on va parler de l'Olympique Lyonnais et du cas coronavirus qui alimente toute la région du Rhône, bien sûr, avec ce Lyon Juventus de Turin. Le match, le choc des Alpes ce soir, on en parle dans quelques instants, que ce soit du côté de la santé, du côté sportif, mais on va d'abord revenir sur la performance du Paris Saint-Germain à Dortmund il y a une semaine, défaite au match aller 2-1. Avant cela, on se lance dans le bain avec la musique de la Champions League. Excellente cette musique. Toujours avec des frissons, hein. On en ressort.
Ça donne le frisson, c'est vrai. Surtout quand une équipe française va jouer derrière.
Eh oui, et surtout quand une équipe française s'est fait marcher dessus à Dortmund de 2-1 la semaine dernière. Oui. Défaite du Paris Saint-Germain. On sait c'est que l'objectif numéro 1, il n'y a que ça qui compte dans la saison parisienne.
C'était la Coupe d'Europe, l'objectif numéro 1, comme tu dis. Et ils avaient embauché Neymar, ils avaient pour le but de gagner, d'aller le plus loin possible cette Coupe d'Europe. Hein.
Match aller, défaite 2-1, qu'est-ce que tu retiens de ce match quoi.
Moi, je retiens des gros désastres. Je suis très très déçu par l'équipe du Paris Saint-Germain. J'ai pas tout vu le match, j'en ai vu qu'une mi-temps. Mais décevant, aucun jeu. Derrière, je trouve que c'est abominable. Hein,
C'était quand même fébrile. Hein.
C'est fébrile derrière.
Et en plus, Thiago Silva est blessé pour le match retour.
Ah, je savais pas, ce que je savais même pas, tu vois.
Le capitaine parisien, on salue la sortie de Lucas Fasano et l'entrée de Fabien Striboli.
Bonjour Fabien.
En technique régie, changement tactique. Voilà, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que ce choix va être payant? On va le voir dans les 20 dernières minutes de ce Chartreusement Sport. Qui sera titularisé pour le prochain match. Là, on est dans les matchs amicaux. Pour revenir sur le Paris Saint-Germain, justement, on est encore sur ce côté stratégique, puisqu'on parle de Thiago Silva qui sera blessé, suspendu, pas là au match retour.
Le milieu de terrain.
Capitaine parisien, Marco Verratti suspendu. Thomas Meunier suspendu, le latéral belge.
D'accord, ok.
Ça va être difficile de faire sans
eux. Ça va faire trois joueurs, quand même, qui sont des pièces maîtresses qui vont manquer. Hein. Ouais. Mais bon, je pense qu'ils sauront se transcender, je pense que...
Ah, toi, tu es plutôt dans l'optique d'une qualification,
je les vois quand même qualifiés. Ça relancera un peu quand même ce climat morose qui est actuellement au Paris Saint-Germain, bien dire ce qu'il y a.
C'est vrai que c'est difficile quand même, ce milieu de terrain sans Verratti.
Ah oui, ça va être dur, c'est sûr. Oui. Mais enfin, bon, il y a quand même devant, il y a un trio d'attaque devant, oui. Qui est quand même exemplaire. Hein.
Alors, qui tu titulariserais, puisque c'est vrai qu'il y a ce problème de riche du Paris Saint-Germain devant.
Oui, mais oui.
Cavani, oui. Icardi qui avait été laissé sur le banc au signalé Iduna Park à Dortmund.
Oui. Non, mais moi j'étais déçu aussi, excuse-moi Jules, par la composition de l'équipe. Un 4 devant, un 4-4-2, je crois que c'était, c'est ça?
Non, c'était à 3. Il jouait à 3 derrière, mais il y avait eu vraiment un changement tactique.
Changement technique.
Tu n'avais pas préparé d'ailleurs Tourelle, qui était totalement
nouveau. On se demande pourquoi ce jour-là, il a mis cette technique en place, cette tactique en place. On se demande pourquoi, d'ailleurs, on n'est pas le seul à le penser.
Non, on n'est pas le seul à le penser.
Voilà. Donc, je pense que ça n'a pas été une bonne chose pour le Paris Saint-Germain. Mais parce que le trio d'attaque qu'ils ont, ça devrait plan des débuts. Hein.
Cavani ou Icardi?
Ah, j'aime bien Cavani, c'est mon pote.
Ouais, parce que c'est vrai qu'en plus, il y a cette insouciance quoi, défensive de Cavani. Il revient, il y a cette agressivité, cette grinta.
Il est en pleine forme, il a encore marqué.
Il a marqué son 200e but dans l'histoire du Paris Saint-Germain.
Et puis c'est
son 200e but sous les couleurs parisiennes.
Qui se plaît très bien au Paris Saint-Germain, qui en veut. C'est un joueur qui me plaît beaucoup, moi.
Malgré l'armada offensive de Dortmund qui a fait beaucoup de mal au PSG au match aller, Erling Haaland, le Norvégien qui monte dans une puissance incroyable, et Jadon Sancho aussi, l'anglais, qui a fait beaucoup de mal au PSG.
Mais bon, c'est marrant, vous voyez.
Paris n'est pas qualifié.
Non. Moi, je suis quand même confiant. Il n'y a qu'un but. 1-0, c'est bon. Hein. Ça marche, ça passe. Hein.
Ça marche. Mais si on en prend un, ça complique toujours les affaires.
Je vois les Allemands peuvent aussi marquer à Paris, hein, sans problème. Hein.
Ouais. Bon, voilà pour PSG Dortmund. Donc, dans 2 semaines, le match retour au Parc des Princes pour ce match. Peut-être le match le plus important de l'histoire du Paris Saint-Germain. Parce que s'il y a une élimination cette année, encore une fois en 8e, ça pourrait même compliquer peut-être le projet Qatari, hein, et l'investissement.
Ah oui, ça, oui, les Qataris vont peut-être poser des questions. Hein, c'est vrai.
Des grosses questions. Hein 8e de finale de Ligue des Champions, ça continue cette semaine évidemment. Hier soir, le Bayern a écrasé Chelsea 3-0, 8e de finale aller. Voilà, à Stamford Bridge, les Munichois se sont régalés avec un doublé de Serge Gnabry, l'Allemand, et puis un but également de Robert Lewandowski, l'inévitable attaquant polonais. Il y a eu un match nul entre le Barça et Naples, un but partout, avec un but de notre Français Antoine Griezmann, codé à Blaugrana pour égaliser après l'ouverture du score de Dries Mertens pour le Napoli. Un partout, vu le match très compliqué quand même, le Barça, possession stérile, c'est un mal pour un bien.
si tu penses comme ça, je te suis.
Je veux dire.
Mais je veux dire que le Barça, quand même, c'est quand même l'équipe à battre.
Je veux dire d'avoir ramené le 1 partout, c'est peut-être un mal pour un bien.
Oui, ça, pour moi, c'est un bon résultat. Au match aller à l'extérieur.
Justement, un mal pour un bien, peut-être parce que, bon, il y a ce match nul donc à Naples.
Oui.
On attendait une victoire des Barcelonais, mais on sait que c'est quand même toujours difficile pour le Barça
à l'extérieur.
À l'extérieur. Et puis, ça, tout simplement, ça leur évitera de se reposer au match retour.
Tout à fait.
Exactement,
il n'y aura pas de surprise. Il faudra jouer au match retour. Donc, c'est tout à fait dans l'esprit du Barça, hein, tout ça.
Avant de parler de Lyon, qui accueille la Juventus ce soir avec beaucoup, beaucoup de questions à te poser, Patrice, et à vous poser d'ailleurs, chers auditeurs et auditrices, derrière votre poste de radio, il y a un choc, énorme choc également, dans ces huitièmes de finale aller ce soir. C'est Real Madrid, Manchester City. Incroyable. Déjà une telle affiche.
Ah, d'accord. Real Madrid, au Real, tu dis.
Au Real,
d'accord. Ah, bah là, ça va être un gros match. Hein. C'est un gros match.
Zinedine Zidane, alors, je ne veux pas réduire cette affiche à ça, mais c'est quand même
non.
Zinedine Zidane contre Pep Guardiola.
Oui, c'est deux entraîneurs top, hein, on dirait. Ça va être une bagarre d'entraîneurs, c'est sûr, déjà, pas commencé. Attends, hein, d'accord. Et puis même, les deux équipes sont, sur le papier, très belles, hein, très bonnes. Hein. Et sur le terrain, bon, on verra. Moi, je vois bien quand même le Real gagner, mais difficilement quand même. Hein.
Un Real sans Eden Hazard.
Oui, en plus, Hazard manquant.
Ouais.
Je pense qu'ils vont gagner, mais...
On devrait avoir un trio madrilène composé de Karim Benzema, de Gareth Bale, et devant le troisième larron qui sera titulaire. J'ai un petit trou de mémoire. Il y aura Bale, Benzema, et puis Lucas Vazquez, très certainement. Ouais. Voilà. Un favori? Donc tu m'as dit le Real.
Je vois bien quand même le Real chez eux gagner 1-0.
Donc, j'allais te demander le pronostic avec. Voilà. Donc pour Patrice, c'est 1-0 ce soir pour le Real Madrid contre Manchester City.
Ça sera difficile le retour. Hein.
Auditeurs, auditrices, on vous laisse faire vos pronostics chez vous, dans votre coin. OL Juve, ce soir, un autre huitième explosif et on ouvre notre grande page, notre grand débat de ce Chartreusement Sport. Vous pouvez participer, nous appeler à la radio 04 76 66, 18, 69, si vous voulez évidemment nous partager vos avis sur cette rencontre. Et le sujet, alors on va parler du sportif évidemment, Cristiano Ronaldo et sa bande de gagnants se déplacent à Dessines Chaprieux ce soir pour affronter l'OL d'un Rudy Garcia un petit peu en difficulté, toute l'équipe en championnat. Mais d'abord, la question santé, le coronavirus qui a touché beaucoup d'Italiens, notamment dans le nord du pays. Est-ce qu'il fallait annuler la rencontre pour toi, Patrice, ce soir pour cause peut-être derrière de propagation du virus et il y aura 2000 supporters turinois qui se déplaceront.
Oui, il y a 2000 supporters qui sont sur Lyon ce soir. Hein. Ça met quand même un drôle de climat, moi, je trouve, à Lyon. Hein. Moi, personnellement, à mon avis, je suis désolé, mais il y a un problème.
Mais d'ailleurs, c'est ce que titre l'équipe, hein, drôle de climat à Lyon.
Drôle de climat à Lyon, effectivement. Et bon, c'est quand même, je pense qu'ils prennent un risque quand même de faire jouer ce match. Hein.
Donc pour toi, il fallait annuler
Pour moi, je suis désolé, mais il fallait l'annuler. Hein. Je vois que hier encore, j'étais dans le salon du pont, on me disait que des élèves devaient faire des voyages scolaires en Italie du Nord. Ben, c'est tout annulé. Des Italiens devaient venir aussi, je ne sais pas encore, sur Pont de Beauvoisin, c'est annulé aussi. Et là, on maintient le foot, je ne sais pas pourquoi. Ça me surprend.
Surprenant, donc.
Surprenant, quand même. Pour moi, c'est surprenant.
Parce que c'est vrai que, bon, tu as raison, hein. Il peut y avoir de la propagation, il suffit qu'il y ait... Alors, on ne pense pas tout de suite aux échauffourées, on espère évidemment qu'il n'y en aura pas entre supporters italiens et supporters français, mais bon, il peut y avoir toujours des contacts, hein. Puis des Italiens aussi qui quittent leur place et qui se mêlent aux Lyonnais, donc il y a toujours un risque. Hein.
Oui, c'est vrai que les supporters italiens seront quand même bien canalisés. Hein.
Oui.
C'est vrai, avec les forces de police qui seront autour. Mais bon, ça fait rien. Il peut y avoir un débordement. Hein. C'est ça le problème.
Bon, au-delà du coronavirus, il y a un enjeu sportif avec la Ligue des Champions, 8e de finale. Lyon qui apparaît quand même avec 1% de chance de se qualifier. Hein. On en résume à ça. Je ne dis pas qu'il y a 1% de chance. Hein. Évidemment, ça sera 50-50 ce soir au niveau des chances. Évidemment, c'est du sport, c'est du foot. Mais les gens, j'ai entendu un sondage, je crois, qui a été réalisé par je ne sais plus quel institut, je ne veux pas citer n'importe quelle source, mais j'ai entendu qu'il y avait le résultat d'un sondage qui disait qu'il y avait 1% de chance de se qualifier pour Lyon, pour les gens.
Ouais, c'est avec la Juve, c'est quand même la grosse équipe, hein, avec des joueurs exceptionnels, hein, deux Français en plus, non, rappelle-moi,
il y a Rabiot et Matuidi,
voilà, qui est Matuidi, qui sont titularisés, je pense, ce soir. Grosse équipe, hein, la Juve. Le Lyon, petite équipe, je dirais, pourquoi, parce que depuis le début de la saison, Lyon n'a pas été très très bon. Hein.
Ah ouais. Très grosse difficulté en championnat.
Classement, ils sont combien?
Ils sont très proches du milieu de tableau. Hein.
Ouais, milieu de tableau
dans la première partie. Oui. Mais alors, je n'ai pas le classement sous les yeux. Mais c'est 7e, 8e ou 9e.
Hein. Ils ont déçu un peu leurs supporters, Lyon. Hein. C'est vrai que l'entraîneur, bon, il fait ce qu'il peut. Je sais bien, Garcia, il est venu en cours de route, on va dire comme ça. Bon, il faut lui laisser un peu du temps. Ils ont un joueur exceptionnel là.
Même fils de paille.
De paille qui a été blessé. Ça, c'était une pièce maîtresse.
Rupture des ligaments croisés.
Rupture des ligaments. Genou. Jusqu'à la fin de la saison, il sera pas là.
Donc est-ce qu'il existe une chance de se qualifier?
La chance, elle existe toujours quand même. Hein. Écoute, moi, je vais être assez confiant. Ben, écoute,
assez confiant. Tu me disais l'inverse avant l'émission.
Oui, mais attends, ça fait rien. Oui.
Et moi, les données.
On va s'amuser au Paris. Moi, je dirais un petit match nul.
Un petit match nul. Et bien, c'est ce qui s'était passé. Souvenez-vous, l'année dernière, contre le Barça. 8e de finale aller. Bah, oui. 0-0, match aller. Bon, ils en avaient pris 5 au match retour. Hein.
Bah, ouais,
Mais bon. Déjà résister au Groupama Stadium.
Voilà. Bah, pourquoi pas? C'est bon, sur une bonne soirée. L'envie de jouer sera là pour les joueurs ce soir. Hein. Un match de Coupe d'Europe, c'est quand même important pour eux.
Mais Patrice, la question derrière, c'est comment battre la Juve, quoi?
Comment battre la Juve?
Comment battre la Juve?
Oui,
ok, il y a une chance de se qualifier, bien sûr, mais comment, quoi?
Eh ben, il faudra jouer serré. Il faudra Ronaldo, il faudra le cadrer un peu plus.
Oui, parce que c'est vrai qu'il y a un métronome derrière.
Hein. Que tout le monde soit au top, la ligne derrière, que ça dépende comme il faut sur les attaquants italiens. Pourquoi pas? Mais bon, c'est vrai que normalement, il y a une grosse différence de niveau. Hein. Fabien, qu'est-ce que t'en penses, toi?
Fabien, qui va prendre la parole, notre technicien sur Lyon-Juve.
Je pense que c'est David contre Goliath.
Oui, Jules.
Carrément.
Mais bon, mais David doit gagner, non?
David peut gagner.
Normalement, David gagne dans l'histoire.
Bah non, sur les deux matchs, c'est mission impossible, on va dire comme ça. Hein.
Mais bon, déjà, si on arrive à donner du plaisir aux supporters de l'Olympique Lyonnais, parce que c'est vrai que quand même, les Dybala, les Ronaldo, les Pjanic, derrière, les Bonucci, les Alexandro, il y a quand même du très 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 gros monde côté Juve, et les supporters vont pouvoir se faire plaisir sur le spectacle déjà.
Le stade sera plein, il y aura une ambiance de feu, je dirais.
Ouais.
Hein, voilà.
Bon, Lyon-Juve ce soir... Petite chance de passer donc pour l'Olympique Lyonnais. Première manche ce soir 21h sur RMC Sport 1. À suivre la suite des huitièmes de finale aller de Ligue des Champions. Olympique Lyonnais, Juventus de Turin. L'entraîneur de Lyon, Rudy Garcia. L'entraîneur de la Juventus, Maurizio Sarri.
Et toi, Jules, ton pronostic quand même?
Ah, moi je dirais, je verrais quand même pas une victoire de Lyon. Je verrais peut-être pas un match nul. Je verrais une courte victoire de la Juve. Je verrais une courte victoire de la Juve, je dirais peut-être 0-2. Lyon ne ferait pas un match catastrophique, mais la Juve arriverait quand même avec son talent, avec sa qualité technique, la qualité tactique infusée par Maurizio Sarri, le coach de la Juve. Je pense qu'ils arriveraient à faire un résultat à Lyon.
Et toi, je peux te poser une question, Garcia, tu en penses quoi?
Bah écoutez, c'est vrai qu'il est arrivé en cours de saison. Silvinho était l'entraîneur de cette équipe de l'OL en début de saison. C'est vrai qu'il n'a pas eu peut-être suffisamment de temps pour arriver à créer un projet, mais c'est vrai que les résultats étaient quand même catastrophiques lors du début de saison de l'OL. Rudy Garcia a redressé la barre, c'est pas non plus un redressement incroyable. Il n'y a pas de match référence, c'est ce qui me marque le plus dans la saison de l'OL. Bon, il y a peut-être la victoire en Coupe de France, la qualification pour la demi-finale en battant l'OM à la maison à 1-0, c'est pas non plus un match flamboyant, mais sinon, bah, il y a, à part la victoire à Leipzig 0-2 en phase de groupe de Ligue des Champions et la qualification au match retour quand ils reviennent de 0-2 à 2 partout, mais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de match référence, et on peut pas, l'OL ne soulève pas les foules. Mais Rudy Garcia essaye de mettre quelque chose en place, mais on voit qu'il y a quand même trop d'irrégularités. Après, je pense qu'il y a aussi une responsabilité des joueurs à prendre en compte. On verra ce qui va se passer ce soir contre la Juve. Voilà pour cette OL Juventus. Il nous reste combien combien de temps dans ce Chartreusement Sport? Il nous reste 4 minutes. Oui, ça limite un petit peu le temps de nos derniers sujets, le rugby puis le foot, encore une fois à l'échelle GF38, mais c'est vrai que quand un sujet nous intéresse, on en parle beaucoup. Juste quelques mots de rugby, le 15 de France. Patrice, quel début de tournoi de 6 nations, on ne pouvait pas ne pas en parler.
Eh ben alors, on va dire que j'ai regardé le match samedi après-midi contre les Gallois, là, match exceptionnel quand même de l'équipe de France.
3 victoires en 3 matchs.
Oui, 3 victoires première en 3 matchs, une défense d'enfer, moi je dirais, ouais. Avec des joueurs qui ont envie de jouer, qui étaient 2-3 ans en arrière, qui étaient trop jeunes, que l'équipe se forme, s'acquérit, ça devient un peu plus mûr les joueurs. Et là, quand on a, je pense que pour les années à venir, on aura une équipe qui devrait être d'aplomb et assez sûr d'elle pour la prochaine Coupe du Monde.
La nouvelle génération, bien sûr.
Nouvelle génération, c'est exactement ça.
Antoine Dupont, on a les joueurs avec Mathieu Jalibert. Évidemment, on a beaucoup de potentiel. 3 victoires donc en 3 rencontres. La victoire dans le crunch contre l'Angleterre. Déjà, la première au Stade de France face aux vice-champions du monde, quand même. Les Anglais qui avaient été battus par les Sud-Africains en finale de la dernière Coupe du Monde au Japon. Et une victoire convaincante, je ne sais pas si c'est le mot, mais déjà assurante contre l'Italie.
Oui.
Et puis ce succès contre le 15 du Poireau au Pays de Galles. Prochaine étape, c'est en Écosse.
C'est
dans 15 jours.
Ouais.
C'est à Édimbourg. Et puis peut-être la finale de ce tournoi destination. Pour peut-être effectivement cette finale du tournoi destination, l'équipe de France peut être la seule à pouvoir encore rêver du Grand Chelem, c'est-à-dire à remporter tous les matchs.
Effectivement, ouais, ils ont encore remporté leurs 3 matchs. Il y en a encore deux à gagner. L'Écosse, pourquoi pas,
hein. Pourquoi pas.
Alors, quoi que l'Écosse est quand même difficile à manœuvrer chez elle, c'est vrai. Mm. Mais bon, rien d'insurmontable pour moi.
Et l'Irlande,
là c'est l'eau, ça. Hein, c'est quand même...
Bon, l'Irlande a perdu en Angleterre, oui, ça nous rassure un petit peu.
D'accord.
Ça reste quand même...
Ça reste quand même l'équipe, une des grosses équipes d'Irlande.
Le défi, évidemment, qui sera important face au 15 du trèfle pour le dernier match du tournoi destination de l'équipe de France. Dernier sujet de cette émission, dernier petit point en quelques secondes. En football, je reviens au football avec le GF 38, Grenoble. C'est une saison qui est plutôt rassurante aussi, encore une fois. Hein.
Oui, Grenoble, ça fait, je dis, franchement, mon idée, c'est Grenoble est à sa place.
9e du championnat.
Ils sont en milieu de tableau, on va dire comme ça. Ils vont rester dans la même poule l'année prochaine. Ils descendront pour moi, ils ne descendront pas, c'est pratiquement sûr, on va dire comme ça. Hein. Et monter plus haut, c'est même pas la peine.
Alors, ils sont à 8 points du 5e.
Oui.
Qui sont qualifiés, premiers qualifiés pour les play-offs. Donc, est-ce qu'il y a un petit espoir de Ligue 2
ouais,
de Ligue 1, pardon.
Ligue 1, un petit espoir, faudrait même pas. Ils n'ont pas le potentiel pour jouer en Ligue 1. Moi, je trouve que ça serait redescendre aussi sec. Donc, autant
se maintenir bien.
Se maintenir comme il faut, recruter des éléments plus intéressants pour l'année prochaine. Et puis repartir, et pourquoi pas dans un an ou deux sur une équipe en division 1, hein.
Voilà, on rappelle la belle performance évidemment, puisque Grenoble monte de National il y a 2 ans.
Oui.
Et on connaît beaucoup de clubs qui sont en difficulté quand ils montent de division 3 à division 2. Derrière, c'est facilement l'ascenseur. Grenoble est bien en place, Grenoble est un bon gestionnaire. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup,
oui.
Mon cher Patrice Mollier, d'avoir été avec nous dans Chartreusement Sport.
Merci, Jules, de m'avoir invité, c'est très sympa.
Et puis, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Même si l'émission est moins régulière, on est toujours d'aplomb, toujours prêt à vous partager nos aventures sportives. Fabien Stripoli,
merci, Fabien.
En technique, un dernier mot, Fabien? Non?
Au revoir.
Au revoir. Écoutez, c'est deux mots, mais bon, on vous en voudra pas. Merci à Mathieu, merci à Pierre qui sont passés également dans Chartreusement Sport. À très bientôt sur Radio Couleur Chartreuse. Bonne soirée.
Bonne soirée à tout le monde.